l'actualité des idées aujourd'hui. Le populisme peut-il être démocratique? On en parle avec notre invité, le sociologue Federico Tarragoni, maître de conférence à l'université Paris Diderot. Après l'énigme révolutionnaire, Paris aux prairies ordinaires en 2015, et Sociologie de l'individu à la découverte, il publie aujourd'hui l'esprit démocratique du populisme, toujours chez le même éditeur, donc à la découverte. Un mot barbare, ce mot populisme, selon lui, à la manière de Foucault, c'est-à-dire qu'il ne dit pas bien ce qu'il veut dire. Un mot insulte, un mot caméléon, un mot inculte peut-être aussi, qui recouvre des réalités politiques somme toute très différentes. Alors ici, on essayait d'affiner un petit peu cette définition, de comprendre à quoi le rattacher. Bonjour à vous, Federico Tarragoni.
Bonjour.
Populiste partout, populisme nulle part, pourrait-on dire. On assiste en ce moment à un brouillage des sens. Écoutez.
États-Unis, Italie, Brésil, Hongrie, jusqu'où déferlera la vague populiste?
We are transferring power from Washington DC and giving it back to you, the people.
Qu'est-ce qu'on entend quand on entend quelqu'un qu'on va dire populiste?
Leur franc-parler, leur style direct, sans filtre, avec des insultes contre les minorités, contre les femmes, contre les homosexuels.
C'est leur contestation du droit et c'est leur méfiance instinctive à l'égard du travail des journalistes.
Une rétorique également anti-élite, anti-média, qui a fait leur succès électoraux.
Ça veut dire quand même que le populisme, c'est une menace pour la démocratie.
Populisme, la contagion mondiale.
Donald Trump.
Viktor Orban.
La victoire de Boris Johnson. Le Brésil voit arriver à sa tête un président d'extrême droite, Jair Bolsonaro.
Sans souveraineté et sans le peuple, il n'y aura plus de démocratie.
C'est le peuple, pour le peuple, par le peuple.
Cette force historique nouvelle qui naît. Avec la fin du communisme, c'était l'épuisement d'un cycle, alors que là, c'est de façon brutale, violente et manifeste l'émergence d'un nouveau moment politique.
Le populisme en son, c'est signé Clément Nouguier. Comment ce terme a-t-il fait irruption dans le débat public et dans les médias depuis quelques années? Pourquoi revient-il? Il n'a pas été inventé récemment, Federico Tarragoni, mais comment est-il revenu presque avec cet effet boule de neige?
Il est venu, en fait, il est revenu d'actualité dans les années 80, suite à l'irruption, en fait, dans le champ politique européen et aussi aux États-Unis, d'une nouvelle droite conservatrice aux accents néolibéraux, qui a aussi, en quelque sorte, défendu un renouvellement du nationalisme. Ça a été le cas de, par exemple, du FPÖ en Autriche, de la Ligue du Nord en Italie, du Front National en France, bien entendu, mais aussi du réganisme aux États-Unis. Et tout un tas de spécialistes, notamment dans le domaine des idéologies d'extrême droite, au sein de la science politique, ont été conviés par les pouvoirs publics à donner une définition de ce grand chamboulement, de ce qui se passait, en fait, devant leurs yeux, parce qu'ils n'étaient pas capables de bien comprendre cette jonction étrange entre une rhétorique nationaliste d'un côté et en même temps une politique néolibérale de l'autre. Et le terme populisme tel que nous le connaissons aujourd'hui est le résultat en fait de cette demande d'expertise qui a été faite un certain nombre de politistes et qui ont vu rien d'autre qu'un renouvellement de la pensée nationaliste sans vraiment l'appeler comme tel. C'est là justement toute la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que le nationalisme a somme toute disparu des radars et en même temps ce terme populisme est tellement omniprésent et galvaudé qu'il se prête à définir tout un tas de choses complètement différentes les unes des autres.
Alors aujourd'hui le populiste c'est Trump, c'est Bolsonaro, c'est Orban en Hongrie, c'est Salvini en Italie, c'est Boris Johnson en Grande-Bretagne. Ils sont plutôt démagogues et autoritaires, nationalistes et xénophobes, conservateurs sur le plan des mœurs. Il y a quand même aujourd'hui une inflation de populistes. Peut-être est-ce la réalité, peut-être est-ce surtout une inflation rhétorique ou lexicale. Ce mot, il est très utilisé, on l'entendait à l'instant dans les médias, mais aussi très commenté, analysé par des chercheurs. Plusieurs essais en cette rentrée encore consacrés aux différents visages du populisme dans le monde, à la menace ou à l'acceptation de ce terme. Vous, vous parlez de la naissance presque d'une nouvelle science, la populologie. Qu'est-ce que c'est?
En fait, ce n'est pas tellement une nouvelle science, c'est un nouveau paradigme. C'est un paradigme d'analyse de la réalité politique qui passe par ce terme fourre-tout et complètement inflationniste du populisme qu'on va donc utiliser pour décrire des mouvements sociaux progressistes, des mouvements politiques d'extrême droite, des partis des extrêmes, et y compris la rhétorique démagogique de tous les leaders politiques. Dans les exemples que vous avez évoqués tout à l'heure, il y a effectivement des nationalistes, il y a des racistes, il y a des démagogues, il y a des proto-fasciste, mais justement la force de ce terme dans ce nouveau paradigme a été en quelque sorte de liquider tous ces termes du débat public et aussi des sciences sociales, et de recouvrir en fait tous ces termes qui disaient bien quelque chose d'un terme qui ne dit plus rien.
D'ailleurs, vous avez testé un peu vos camarades autour de vous et vous leur avez demandé ce qu'était le populisme pour eux, et ils en retiennent un truc plutôt d'extrême droite, mais qui peut aussi se balader, transiter entre la gauche de la gauche et la droite de la droite, qui tourne autour de l'idée d'un mécontentement populaire, d'une rupture avec l'élite, l'establishment, et qui viendrait menacer nos démocraties en leur cœur.
C'est ça, c'est surtout l'idée de menace en fait qui permet de relier tous les phénomènes qu'on place sous le terme de populisme. Oui, en effet, j'ai fait une mini-enquête qui n'a rien à voir avec évidemment une enquête sociologique rigoureuse. C'était une enquête préliminaire au fond chez des amis, des voisins, des copains, des collègues, et tous partageaient, malgré, c'était ça l'intérêt de cette enquête, malgré l'absence de définition consensuelle de ce terme, tous partageaient au fond un ensemble de représentations, un ensemble de visions autour de ce concept. Et c'est donc à partir de ces représentations partagées, malgré l'absence de définition consensuelle, que je suis parti pour définir ce paradigme que je nomme la populologie et que je décline en quatre grands axiomes qui sont aujourd'hui totalement consensuels et que je m'attelle donc à déconstruire parce que je pense qu'ils sont entamés d'erreurs logiques.
Alors quels sont ces quatre grands axiomes ?
Le premier, c'est que le populisme est soluble dans la démagogie, c'est-à-dire que le populisme ne serait rien d'autre qu'une nouvelle forme de démagogie. Le deuxième, c'est que le populisme peut être tant de gauche que de droite. Le troisième, que le populisme est une alchimie étrange entre la démocratie et l'autoritarisme. Et le quatrième, celui qui au fond constitue la grammaire d'ensemble des trois précédents, c'est que le populisme surtout menace. Menace nos démocraties, c'est la plus grande menace que nous vivons au sein de nos démocraties représentatives et libérales.
D'ailleurs, vous ne cessez de le rappeler, taxer son adversaire de populiste aujourd'hui encore, de gauche ou de droite, c'est le disqualifier, c'est le discréditer, et vous dénoncez cette fonction normative du mot, l'usage du populisme qui neutralise finalement toute critique, toute discussion et qui désamorce toute possibilité d'alternative.
C'est le fondement même du paradigme populologique. Autrement dit, l'opération de pensée qui caractérise ce paradigme et qui a été inventée par des politistes et qui aujourd'hui est utilisée par les journalistes, les médias, les hommes politiques, les hommes au bar, le fondement même, l'opération fondamentale, c'est en fait de définir le populisme par un jugement de valeur et puis de déduire de ce jugement de valeur la définition positive du populisme, c'est-à-dire ce qu'il est scientifiquement. Ce jugement de valeur, d'ailleurs, peut être vise la compatibilité ou non du populisme avec la démocratie. Donc d'un côté, on a une majorité d'analystes qui disent que le populisme est incompatible avec la démocratie, et de l'autre, il y a une minorité d'analystes politiques autour de l'École des Sexes et de Chantal Mouffe qui, au contraire, considèrent le populisme comme la quintessence même de la démocratie, comme le salut même de la démocratie. Alors même que ces deux paradigmes, jugements de valeur, si l'on veut, sont radicalement aux antipodes du point de vue idéologique, eh bien, au fond, ils partagent la même opération fondamentale. C'est-à-dire, le populisme doit être d'abord défini par un jugement de valeur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est menaçant ou c'est bien? C'est bien ou c'est mal? Et de là, on en dérive la définition de ce qu'il est. Eh bien, moi, j'essayais de faire exactement le contraire, c'est-à-dire traiter le populisme comme un fait social tout à fait normal, c'est-à-dire une idéologie politique que la sociologie peut analyser, c'est-à-dire essayer de comprendre déjà ce qu'il est, et puis en aval, hein, en tirer effectivement des enseignements normatifs, c'est-à-dire essayer de comprendre si c'est plutôt une chance ou une menace pour la démocratie.
Mmh. Et ça, c'est intéressant sur la démarche que vous avez adoptée, parce qu'on imagine que vous avez craint vous-même de tomber dans cet excès de populologie, ou le terme n'est pas si facile à employer, mais de tomber dans ce travers qui peut sembler parfois un peu facile, mais qui est éminemment complexe quand on essaye de définir ce qu'est le populisme. Comment vous avez du coup, vous, appréhendé cette question pour ne pas tomber dans le piège? Est-ce que vous avez tenté une sociologie des idées? Est-ce que vous avez surtout cherché à travers ce tableau, cette cartographie populiste en repassant par l'histoire, à nous inviter à une forme de scepticisme radical?
C'est tout à fait ça, hein, c'est tout à fait cette voie sceptique que je recommande face à ce concept et face à tous les concepts galvaudés qui aujourd'hui sont utilisés comme des prénotions et qui véhiculent des jugements de valeur très puissants sur le peuple, la populace, les classes populaires, leur incompétence vis-à-vis de la démocratie et tout cela. Bon, la voie que j'ai suivie est tout simplement la voie de l'histoire. Pourquoi? Parce que, en fait, derrière ce gros brouhaha de la populologie sur ce qu'est le populisme, et donc derrière ce concept fourre-tout dans lequel on met tout et n'importe quoi, eh bien, il y a au fond quelque chose de consensuel, qui est qu'il y a trois manifestations historiques sur lesquelles tous les spécialistes du populisme sont d'accord, et qui constituent donc les seules expériences à partir desquelles on peut effectivement penser le populisme. Et ces trois expériences sont le narodnichesbo russe, le populisme russe du 19e siècle, le mouvement des fermiers ruinés aux États-Unis qui a donné lieu à un parti, le People's Party, à la fin du 19e siècle aux États-Unis, et la tradition populiste en Amérique latine, c'est-à-dire les gouvernements nationaux populaires. Ce que j'ai fait n'a été rien d'autre que comparer rigoureusement et scientifiquement ces trois expériences sur lesquelles tout le monde est d'accord pour en tirer, en effet, une définition scientifique du populisme et de là, bah, effectivement, la mettre à l'épreuve de la démocratie aujourd'hui, de ce que peuvent être des mouvements populistes compatibles avec cette histoire et d'essayer de comprendre si, oui, effectivement, le populisme est ou non une chance ou une menace pour la démocratie. Mais c'est cette voie historique que j'ai reprise à mes collègues historiens, tout comme aujourd'hui, il me semble nécessaire, par exemple, de comprendre ce qu'est le fascisme ou le néofascisme ou le post-fascisme à partir de ce que fut historiquement le fascisme, hein, en Italie dans les années 20. Tous les termes qui servent pour stigmatiser, pour discréditer l'ennemi, doivent être soumis en quelque sorte à cette enquête historique pour savoir en fait ce qu'ils ont été dans le passé, ce qu'ils ont décrit dans le passé et ce qu'ils peuvent donc aujourd'hui décrire en toute rigueur.
Alors on va partir d'abord à l'Est avant de rejoindre l'Amérique latine. À l'Est avec le politologue bulgare Ivan Krastev, auteur de Après l'Europe, qui a aussi contribué à analyser avec d'autres chercheurs ce qu'ils appelaient un monde en plein âge de la régression.
Vous savez, je crois d'abord que le terme populiste est le plus mal utilisé aujourd'hui. Parce que pour certains, ce qui est populisme, pour l'autre, c'est la démocratie. Je crois que le populisme est devenu tellement utilisé comme terme parce que fondamentalement, on peut difficilement définir ce que c'est. On sent tous qu'il y a une transformation majeure de nos régimes politiques. Le populisme ne peut pas être réduit à la montée de partis extrémistes. Fondamentalement, certaines compréhensions des démocraties telles qu'on les connaît sont mises sous pression. Alors, qu'est-ce qui va survivre? C'est véritablement la question.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est l'imbrication qu'il fait et que vous faites, Federico Tarragoni, entre populisme et démocratie. Ni menace, ni salut. Le populisme désignerait aussi pour vous un certain type de crise de la démocratie. Comment ça se comprend en ce moment en Europe de l'Est?
Alors, en Europe de l'Est, justement, il y a plutôt un renouvellement des nationalismes et des ethnonationalismes. Hein. Si on prend l'exemple d'Orban ou de Fico en République tchèque, le peuple dont il est question, le peuple qui est mis au cœur du discours politique, c'est plutôt l'ethnos, ce même ethnos, donc ce peuple enraciné dans le terroir, dans une langue et opposé à des boucs émissaires, ce même ethnos qui avait été au cœur du discours politique des partis communistes donc dans l'Europe de l'Est. En ce sens, je suis totalement d'accord avec l'extrait que vous avez projeté. Autrement dit, je pense que le rapport entre populisme et démocratie doit être compris à partir du type de peuple qui est mobilisé dans le populisme. Le type de peuple qui est mobilisé dans le populisme, dans ces moments de crise de la démocratie représentative et libérale, ce n'est rien d'autre qu'une plèbe, ce n'est pas la nation. Il peut y avoir du national dans cette plèbe, mais c'est une acception très spécifique de la nation. Et c'est exactement cela qui apparaît dans les trois expériences historiques que j'ai analysées. Le peuple qui est mis en avant dans ces phases de crise de la démocratie, dans les trois cas historiques, n'est rien d'autre qu'une plèbe démocratique qui est opposé aux élites qui sont en train de déposséder les gouvernements du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et cette plèbe démocratique doit en quelque sorte se réapproprier par le bas la démocratie. L'exemple le plus évident est celui du People's Party. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mouvement de fermiers ruinés? Eh bien, il y a une contestation paysanne qui vise à se réapproprier les moyens de production, les ressources productives et à construire ce qu'ils appellent une démocratie des producteurs, une république des producteurs opposés à la république pourrie, dégénérée de Wall Street, des financiers, des oligopoles industriels et de du capitalisme. Donc c'est en ce sens que le peuple du populisme est un peuple plutôt de gauche et pas tellement de droite, même s'il y a du national. Mais la caractérisation de la nation qui est associé à ce peuple est une nation très ouverte, est une nation qui n'est pas opposée au bouc émissaire, mais qui est surtout pensée en rapport avec la question démocratique.
Et qui va l'incarner alors cette contestation?
Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a toujours ce que je dis dans mon livre, du charisme démocratique dans le populisme. Autrement dit, la spécificité du populisme, c'est que c'est une tradition politique plutôt émettière, plutôt révolutionnaire, plutôt sauvage. Autrement dit, ça n'a jamais donné lieu à des partis politiques et à des manifestes idéologiques. Raison pour laquelle, soit dit en passant, c'est si difficile d'analyser le populisme et de le définir, parce qu'on n'a pas, comme pour le socialisme ou le communisme, des manifestes, des œuvres philosophiques, des doctrines. Hein. Le populisme a été plutôt l'affaire de moments de crise métière où la plèbe se mobilise. Et évidemment, en l'absence d'un parti et d'un appareil très organisé, la plèbe est représentée par un ou plusieurs leaders charismatiques. C'est pour ça que je parle de charisme démocratique et pas toujours de leadership charismatique. Le populisme russe fut éminemment polycéphale. Autrement dit, il fut représenté par tout un ensemble d'intellectuels, d'activistes, dont des nombreuses femmes qui luttaient pour l'émancipation sexuelle. Le populisme états-unien fut représenté par quelques grands intellectuels, là aussi, et à tour de rôle par tous les représentants des communautés et des coopératives paysannes. Donc ce fut pratiquement un mouvement sans leader. Et le populisme latino-américain, lui, oui, fut bien incarné par des leaders charismatiques aux velléités plutôt autoritaires sur le moyen terme. C'est en ce sens que, bien sûr, il y a l'incarnation dans le populisme, mais c'est pas forcément l'incarnation dans un chef. Vous voyez, se pose la question d'une représentation incarnée. Ça, oui, hein, dans tous les mouvements populistes, parce que on est en absence justement d'un appareil hein, et d'une doctrine et d'un tiers qui puisse effectivement faire objet faire office de représentation.
Mais du coup, le poutinisme est-il le produit, l'enfant de ce populisme russe ?
Non, je ne pense pas du tout, parce que l'ambition du populisme russe fut justement de fonder la démocratie. L'ambition de Herzen, Tchernychevski et Bakounine, qui ont été les trois grands pères intellectuels du populisme russe, était de construire une démocratie opposée justement au tsarisme, une démocratie intégrale dans laquelle il y eut disons toutes les libertés du libéralisme et l'égalité sociale totale. Eh bien, c'est pas du tout ce que veut aujourd'hui Poutine. Poutine, il est plutôt l'héritier du vieux projet staliniste de l'empire soviétique. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans les cérémonies que Poutine organise à l'occasion de la commémoration de la victoire sur les nazis. Ce sont des commémorations qui visent plutôt à unifier la nation autour de son chef, donc à considérer la nation comme quelque chose d'organique, ce qui n'est pas du tout le cas du populisme russe, et surtout d'étayer des ambitions impérialistes. Il ne faut pas oublier que la nation de Poutine est une nation ethnique, parce que bon, ce qu'il fait en Tchétchénie, on le sait très bien, et c'est une nation à visée impérialiste, donc CF, Ukraine, etc. C'était pas du tout le cas des populismes russes. Les populismes russes, si on prend Bakounine, Bakounine rêvait d'une fédération internationale des peuples, une fédération démocratique des peuples, qui devait unir tous les peuples opprimés par les empires, donc l'empire tsariste et l'empire austro-hongrien. Donc c'était pas du tout à visée impérialiste ni ethno-nationaliste.
Voilà, un poutinisme qui, bien que populaire dans son pays, n'est pas forcément populiste, mais plutôt autoritaire, selon vous, Federico Tarragoni. Partons en Amérique latine avec cette longue histoire, puisque vous le racontez, le populisme là-bas s'est institutionnalisé très tôt. Il est même devenu une philosophie cohérente d'action publique et politique, un populisme qui apparaît dès les années 30 dans tous les pays d'Amérique latine, sur fond de crise aussi. On va revenir ou repartir avec l'actualité et la Bolivie, avec la figure d'Evo Morales, président démissionnaire face à la contestation, après 13 ans au pouvoir, un phénomène politique avec une réelle popularité qu'il a porté jusqu'ici.
Le président Evo Morales connaît nos souffrances. Il est né ici. Jamais nous n'aurions rêvé d'avoir des infrastructures pareilles. Et ce n'est pas que dans l'éducation, il y en a aussi dans la santé, les routes, le sport. Vous voyez combien la Bolivie a changé ?
Non ?
Le pays est devenu visible dans le monde entier. Quand Evo Morales parle de la Bolivie, tout le monde écoute. Pourquoi ? Parce qu'il parle avec le cœur et au nom des paysans indigènes en lutte, aux Nations Unies et ailleurs. C'est une voix. Moi, je dis que c'est un petit Mandela.
Voilà, Mandela, la comparaison est faite par ce Bolivien sur Evo Morales. Alors on peut repartir de la Bolivie, on peut essayer de comprendre ce qui se passe aussi aujourd'hui en Chili. On voit que la contestation s'étend en Colombie sur ce moment politique que nous vivons, ce fossé qui semble se creuser entre aspirations des gouvernés et décisions des gouvernants, Federico Tarragoni.
C'est le même fossé qui s'est creusé dans les années 30 lorsque les populismes naissent en Amérique latine, sur le fond de la Grande Dépression de 1929. À cette époque, l'Amérique latine presque tout entière était gouvernée par des républiques oligarchiques libérales, donc des républiques dont la politique économique était très ouverte vers l'extérieur, ils exportaient des matières premières et dont le fonctionnement était très très oligarchique. Donc les premiers populismes, le péronisme en Argentine, le cardenisme au Mexique, et il y en a eu un par pays, n'ont rien fait d'autre que refonder des démocraties plus inclusives, plus égalitaires et plus justes, élargir le suffrage, créer des droits sociaux liés au travail, etc. Eh bien, Morales est l'un des héritiers de cette tradition, avec Chavez et Correa, qui sont les trois néo-populismes en Amérique latine. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt le retour d'une droite ultranationaliste et néolibérale, incarnée par Bolsonaro et d'autres, qui balaie comme ça, d'un coup de revers, tous ces néo-populistes qui avaient essayé, une fois de plus, de redémocratiser les démocraties néolibérales des années 80-90. 90. Donc c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. C'est plutôt à la fin du tournant néo-populiste et au retour de la droite, d'une droite décomplexée, ultranationaliste et néolibérale.
Aujourd'hui, le populisme peut redevenir une philosophie politique active qui permette de revitaliser, de repenser la démocratie pour vous ?
Je ne pense pas que le terme philosophie soit bien choisi, parce que justement, le populisme difficilement peut se traduire en philosophie. Hein, parce que le populisme n'a rien de systématique, et ça j'essaie de le dire dans mon livre. Le populisme est une idéologie minimaliste avec une visée maximaliste. C'est une idéologie minimaliste puisqu'elle tient tout entière en une opposition qui est celle de la plèbe à créer et de l'élite qu'il faut, qu'il faut en quelque sorte remplacer puisqu'elle a dépossédé la démocratie de son sens. Et la visée est maximaliste parce que justement l'ambition du populisme n'est rien d'autre que de créer la démocratie parfaite, la démocratie intégrale, la démocratie idéale. Et en cela, bien sûr, le populisme est toujours démenti par les faits. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les populismes en Amérique latine furent aussi éphémères, puisqu'il est difficile de créer une démocratie, en plus du point de vue de l'État et du haut de l'État, aussi parfaite et aussi intégrale. Mais je pense par contre que ça peut être une stratégie politique. Ce n'est pas mon but en tant que sociologue, puisque le but de la sociologie, c'est d'éclaircir les choses, pas de donner des stratégies pour l'action, mais c'est le but des femmes et des hommes politiques qui pourraient se réapproprier cette histoire, cacher cette histoire inconnue du populisme.
Se contenter de faire des mouvements comme Podemos en Espagne.
Exactement, pour remobiliser en quelque sorte la plèbe contre l'élite. C'est ça le but. Je crois que l'opposition est aujourd'hui très pertinente. Et elle a été exploitée par Podemos, le mouvement 5 étoiles, la France insoumise, Syriza et d'autres. Mais cette stratégie doit être suivie en connaissance de cause et en sachant ce que le populisme a été, avant même de pouvoir inventer un nouveau populisme à l'avenir qui devrait être en tout état de cause non nationaliste et radicalement démocratique.
Voilà, Podemos qui était allé chercher ses référents aussi en Amérique latine avant de devenir le mouvement en phase d'institution. Institutionnalisation aussi que l'on connaît en Espagne. C'est passionnant, ça s'appelle l'esprit démocratique du populisme, Federico Tarragoni, et votre ouvrage paraît dans la collection L'horizon des possibles à la découverte. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
France Culture, il est 13h22 et comme un jeudi sur deux, il est l'heure pour vous de retrouver le rendez-vous de la médiatrice.
Le rendez-vous de la médiatrice.
C'est Emmanuel Davier qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Vous recevez aujourd'hui Sandrine Trainer, la directrice de France Culture. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour Olivia et à toutes.
Sandrine Trainer, bonjour. Comme vous le savez, nous avons reçu de très nombreux messages à la suite des propos tenus par Alain Finkielkraut sur le plateau de LCI la semaine dernière. Les auditeurs se sont empressés de vous écrire et vous ont demandé de le suspendre de l'antenne. Samedi dernier, trois jours après ces déclarations, les auditeurs ont entendu Alain Finkielkraut animer réplique. Ils ont de nouveau écrit ce week-end. Voici un message parmi d'autres. Je suis choquée que vous mainteniez un intellectuel qui, même pour prône le viol. Je remercie France Culture pour l'ouverture d'esprit qu'elle m'apporte, mais là, ce n'est plus de l'ouverture, c'est cynique. Que répondez-vous à cette auditrice, Sandrine Trainer ?
Merci Emmanuel de me permettre de m'exprimer sur ces sujets qui sont compliqués, qu'on va devoir traiter quand même de manière très rapide ici. Écoutez, non, évidemment, j'adhère à ce que dit cette auditrice. Il ne s'agit pas d'ouverture d'esprit. Vous m'avez entendu et les auditeurs m'ont entendu défendre la place de réplique dans la grille de France Culture, qui, je crois, est un élément, est une émission qui est un élément très important du débat public. Et vous savez que je fais confiance aux gens pour écouter et se faire leur propre opinion. Et il faut savoir aussi écouter des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Non, il ne s'agit pas là d'ouverture d'esprit. Et du reste, l'épisode qui a suscité les réactions des téléspectateurs ne s'est pas passé sur notre antenne.
Et ça, c'est effectivement très important de le rappeler.
C'est tout à fait essentiel. Et je dirais même la France Culture et notre démarche est tout entière à rebours de ce type de débat télévisé. Moi, je pense que aujourd'hui le débat public va mal, qu'il a besoin de mesures, qu'il a besoin de distance et qu'il a besoin des intellectuels, des chercheurs, des universitaires, mais dans un tout autre emploi d'approfondissement et d'apport de connaissances et non pas d'hystérisation supplémentaire du débat. Néanmoins, pour revenir sur cette émission et ne pas esquiver la question, je pense évidemment, et je crois que tout le monde le sait, le petit extrait qui a été diffusé sur les réseaux sociaux donnait à les... peut-être pouvait donner à penser le contraire, mais si on écoute l'émission dans son intégralité, ou même l'extrait dans son intégralité, évidemment, Alain Finkielkraut était au second degré et personne ne peut penser l'inverse. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, ce second degré sur des sujets aussi importants, aussi cruciaux, qui donnent lieu aujourd'hui, d'ailleurs, ces jours-ci, au Grenelle sur les violences conjugales, notamment. Est-ce qu'il est fort à propos dans ce cadre-là, dans le cadre d'un débat critique et agité? Bon, je laisse les gens juger. Pour ma part, ça ne correspond effectivement pas à ce que j'aime écouter et regarder. Je pense qu'il faut garder son calme et finalement rester sérieux sur les sujets graves. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et de toute façon, la déformation des propos sur les réseaux sociaux nous contraint à une forme de rigueur.
Samedi dernier, le dernier numéro de l'émission Réplique était consacré au cinéma de Woody Allen et cela nous a également valu des messages. Je commence avec celui-ci. Alain Finkielkraut, en évoquant les films du cinéaste américain, échange avec ses invités sur le thème de la pédophilie. Il dit que la pédophilie est reliée au fait de la puberté, c'est-à-dire que dès lors que la puberté est passée, il n'y a plus de pédophilie. J'entends par là que si l'on devient pubère à 11 ans, on peut être la cible de pédophiles qui n'en seraient plus, puisque, selon M. Finkielkraut, seuls les sujets prépubères peuvent être considérés comme victimes de pédophilie. Cet auditeur s'interroge ensuite sur la légalité de tenir de tels propos, et un autre auditeur ajoute « C'est non seulement abject, mais totalement irresponsable, en donnant un quitus moral et quasiment le droit de cuissage à tous les harceleurs et les hommes adultes amateurs de très jeunes filles. Comment peut-on laisser passer de tels propos sur une chaîne publique? Comment peut-on laisser cet homme faire la promotion de la consommation sexuelle de jeunes mineurs? Le silence des autorités est ici assourdissant. » Sandrine Trainer, que vous inspire ces remarques?
Non, mais personne ne donne quitus de comportement criminel. C'est l'évidence et je tiens à rappeler tout de même que, en l'occurrence, ce n'était pas une émission sur la pédophilie, c'était une émission sur Woody Allen. Si on a un instant, je voudrais bien que l'on puisse y revenir, parce que ce sujet très discuté, et d'ailleurs c'était l'objet de la dernière émission de Marc Weissmann, Signe des temps, de savoir comment est-ce qu'on dissocie aujourd'hui, ou peut-on dissocier l'œuvre de l'artiste. Ça vaut pour Woody Allen, ça vaut pour Roman Polanski. C'était bien une émission sur le cinéma de Woody Allen et non pas une émission où il était question de pédophilie. Non, je pense que c'est assez sinistre effectivement de rentrer dans l'exégèse de termes caractérisant des faits criminels. Je crois que d'ailleurs la pédophilie, je regardais ça, c'est les enfants qui sont prépubères ou en début de prépuberté. Enfin, pour le coup, je trouve ça effectivement sinistre. Ça, c'est la première chose. Que ça puisse être une incitation au crime, la loi pourrait en juger. Je ne le crois évidemment pas. Il n'en reste pas moins qu'il reste une question pour une radio comme France Culture, dont personne ne peut penser qu'elle fait l'apologie de la pédophilie, qui est de savoir comment est-ce qu'on parle des artistes qui se trouvent sous le feu de l'actualité dans le même temps que leurs œuvres paraissent. C'est un grand sujet. Moi, je pense évidemment qu'il faut pouvoir continuer à parler de cinéma et de littérature sans pour autant occulter les sujets qui fâchent.
Merci Sandrine Trainer.
Et merci beaucoup à vous Emmanuel Davier. Rendez-vous dans deux semaines pour un prochain rendez-vous de la médiatrice. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table culture avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus à la réalisation. Aujourd'hui c'était Éric Lancien avec Valentin Bobinet.